à Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui, Eric Manilakidza avec vous dans cette édition du lundi 25 avril 2022. Au sommaire, au Mali, 6 soldats tués dans 3 attaques revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Au Soudan du Sud, plus de 70 morts dans les violences interethniques. La réélection d'Emmanuel Macron en France est saluée dans le monde. Le chef du Pentagone affirmait que l'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie avec les bons équipements. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. L'armée malienne affirmait que la situation est sous contrôle après des attaques simultanées contre 3 camps militaires, dont celui de Sévaré, l'un des plus importants du pays. De son côté, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui a revendiqué ces attaques affirmait détenir un combattant russe. Le point avec Abdelrahman Dia.
Selon le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ce russe qu'il présente comme un mercenaire du groupe Wagner a été capturé début avril dans la région de Ségou. Ce groupe djihadiste indique dans un communiqué, je cite, « Ses forces meurtrières ont participé avec l'armée malienne à une opération de parachutage sur un marché dans le village de Moura où ils ont affronté plusieurs moudjahidines avant d'encercler cette localité pendant 5 jours et tuer des centaines de civils innocents. » Fin de citation. Ce lundi, la direction des relations publiques des armées est revenue sur les attaques d'hier visant 3 camps militaires dans les régions de Mopti et Ségou, les qualifiant de nouveaux modes opératoires des djihadistes dans le centre malien, mais déjà vus dans le nord. Pour la DIRPA, c'est une méthode désespérée puisque les djihadistes sont en train de perdre du terrain. L'armée dit avoir perdu 6 soldats et noté des dégâts matériels, dont un hélicoptère légèrement endommagé, précisant que 11 assaillants, dont un kamikaze, sont morts dans ces attaques.
Le procès de 15 personnes, dont 9 militaires, poursuivis pour des ventes présumées d'armes à des miliciens, s'est ouvert lundi à Bounia, chef-lieu de l'Ituri, dans le nord-est de la RDC. Ces armes sont soupçonnées d'avoir été utilisées par la milice Codeco lors d'attaques de villages et de camps de déplacés. La première journée d'audience publique devant la cour militaire d'Ituri a été consacrée à la présentation des prévenus, à savoir un fusil d'assaut AK-47 et des centaines de munitions. Au Soudan du Sud, au moins 72 personnes ont été tuées en 7 semaines. Certaines ont été décapitées ou brûlées vives dans l'état de l'unité où les violences interethniques se sont intensifiées selon la mission de l'ONU dans ce pays. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Les massacres ont eu lieu entre le 17 février et le 7 avril dans le comté de Lire, selon la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. En avril, des villageois terrifiés ont raconté avoir passé des journées entières cachés dans des marais du comté, tandis que des hommes armés mettaient le feu à leurs maisons et volaient leur bétail. Le directeur de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, Nicolas Essom, a appelé les autorités nationales et locales à prendre des mesures immédiates pour réduire les tensions et prévenir de nouvelles escalades et représailles. Le regain de violence au Soudan du Sud fait craindre un retour à la guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés. La guerre a pris fin en septembre 2018 avec un accord de paix qui reste largement non appliqué, plus de 2 ans après la formation d'un gouvernement d'union nationale réunissant le président Salva Kiir et son ennemi juré, Riek Machar, désormais vice-président.
Le procès d'un Gambien accusé d'avoir fait partie d'un escadron de la mort sous le régime de Yahya Jammeh s'est ouvert lundi en Allemagne. Bai Low, 46 ans, y comparé notamment pour le meurtre d'un correspondant de l'AFP. Ce procès qui se tiendra jusqu'en 2023 est le premier à poursuivre les violations des droits de l'homme commises en Gambie, souligne l'ONG Human Rights Watch. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a discuté dimanche de Jérusalem avec le roi Abdallah II de Jordanie et le prince héritier d'Abu Dhabi. Les 3 dirigeants arabes ont plaidé pour poursuivre les efforts pour amener le calme à Jérusalem et préserver le statu quo légal et historique, a rapporté le porte-parole de M. Sissi. La communauté internationale craint un nouvel embrasement dans la ville sainte. Un groupe de 542 migrants a été intercepté dimanche et placé en détention à Tripoli. Il s'apprêtait à entreprendre la périlleuse traversée de la Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes à bord d'embarcations pneumatiques depuis la côte ouest libyenne. Ces candidats à l'immigration clandestine ont été arrêtés par les autorités libyennes près d'une plage de Misrata à quelques 200 km de Tripoli. L'Ocean Viking, le navire de secours en mer de l'association SOS Méditerranée, a effectué lundi un deuxième sauvetage à Méditerranée centrale en deux jours en récupérant 94 migrants en détresse. Dimanche, ce navire humanitaire avait déjà porté secours à 70 migrants dans la même zone. Les recherches se poursuivent aujourd'hui en Méditerranée orientale où des dizaines de personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau de migrants surchargé pourchassé par la marine libanaise au large de Tripoli dans le nord-ouest. Le corps d'une femme a été retrouvé lundi matin, portant à 7 le nombre de victimes. Selon le HCR, au moins 84 personnes se trouvaient à bord de l'embarcation partie samedi de la région de Kalamoun au sud de Tripoli.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plusieurs dirigeants et organisations dans le monde ont félicité le président français Emmanuel Macron, réélu pour un second mandat hier avec 58,5% des voix contre 41,45% pour Marine Le Pen. Nathalie Barge.
Le président américain Joe Biden s'est dit impatient de poursuivre la coopération avec Paris pour défendre la démocratie. Le président chinois Xi Jinping a envoyé un message pour continuer à travailler avec lui pour défendre les principes d'indépendance. Le président russe Vladimir Poutine lui a souhaité du succès dans son action publique et une bonne santé. Monsieur Macron s'est entretenu plusieurs fois avec monsieur Poutine à propos du conflit en Ukraine. Vers une Europe forte et unie, a déclaré de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky, félicitant Emmanuel Macron. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est réjouie de continuer l'excellente coopération avec Paris. Le chancelier allemand Olaf Scholz a salué un signal fort en faveur de l'Europe, tandis que le premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit ravi de continuer à travailler avec la France. Et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est dit heureux de poursuivre l'engagement pour bâtir entre l'Afrique et la France des relations rénovées et mutuellement avantageuses.
En Ukraine, 5 morts dans des frappes sur des installations ferroviaires dans le centre-ouest. Le chef du Pentagone affirmait que l'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie avec les bons équipements. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Au moins 5 personnes ont été tuées, 18 blessées ce lundi dans des frappes russes sur des installations ferroviaires dans la région de Vinnytsia, dans le centre-ouest de l'Ukraine. Plus tôt, le directeur des chemins de fer ukrainiens avait indiqué sur Telegram que les troupes russes continuent de détruire systématiquement les infrastructures ferroviaires. La Russie a annoncé aujourd'hui l'expulsion de 40 diplomates allemands en représailles à une mesure similaire prise début avril par l'Allemagne. Le chef du Pentagone, de retour d'une visite à Kiev, a affirmé que l'Ukraine pourrait gagner la guerre contre la Russie si elle avait les bons équipements, tandis que les responsables ukrainiens rejetaient une offre de Moscou d'évacuer les civils retranchés avec les derniers combattants ukrainiens dans le port stratégique de Mariupol.
Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale participera à l'enquête européenne sur les principaux crimes présumés commis en Ukraine, a annoncé lundi l'agence de coopération judiciaire Eurojust. 3 femmes et un homme ont été poignardés à mort dans un logement du sud-est de Londres et un suspect d'une vingtaine d'années a été arrêté, a annoncé la police lundi. Les victimes, qui se connaissaient apparemment toutes, ont été retrouvées mortes lundi matin par la police qui avait été appelé pour des nuisances nocturnes à Suffolk, quartier. L'Iran a appelé lundi à une réunion le plus tôt possible en vue de rétablir l'accord sur le nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances, alors que les négociations à Vienne sont interrompues depuis le 11 mars. Téhéran est engagé depuis un an dans des négociations directes avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, et indirectes avec les États-Unis pour rétablir cet accord. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, met en garde. L'Afrique doit se préparer à une crise alimentaire inéluctable. Selon lui, les pays les plus vulnérables du continent ont été les plus durement touchés par le Covid-19, les conflits et le changement climatique qui ont anéanti des progrès économiques et sociaux en Afrique, qui a perdu jusqu'à 30 millions d'emplois à cause de la pandémie. Pour stimuler la qualité et la compétitivité du « Made in Cameroun », l'agence camerounaise des normes et de la qualité a initié une campagne de certification à coût réduit. L'agence Ecofin précise que pour toute demande de certification de produits dans l'artisanat, les filières agroalimentaires et cosmétiques, l'entreprise bénéficiera d'une réduction de 30%. Au Nigeria, une explosion dans une raffinerie de pétrole illégale a fait au moins 110 morts hier. Dans la région pétrolière du delta du Niger, des pipelines sont régulièrement vandalisés et les hydrocarbures sont ensuite raffinés sur des sites illégaux et revendus au marché noir. Malgré une production d'environ 2 millions de barils par jour, la plupart des habitants vivent dans une grande pauvreté malgré les millions de dollars générés par leur région.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Ce soir, c'est avec Nanit Sylvani Talani.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Commençons par le football avec les quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération disputée dimanche. Au Maroc, Renaissance Sportive Berkane a battu Al Masry d'Égypte 1-0. En Libye, à Benghazi, Al Ahly Tripoli l'a remporté sur un autre club libyen, Al Ittihad 1-0. En RDC, à Lubumbashi, les Congolais du TP Mazembe ont soumis les Pyramides d'Égypte 2-0. Enfin, en Afrique du Sud, à Soweto, les Tanzaniens Simba ont subi la loi des Sud-Africains Orlando Pirates 1-0. En demi-finale, Renaissance Sportive de Berkane affrontera le TP Mazembe et Al Ahly jouera contre les Orlando Pirates. L'arbitre tunisien Sadek Al-Salmi a été pris à partie physiquement lors de la victoire des Marocains de la Renaissance Sportive de Berkane contre les Égyptiens d'Al Masry dimanche. À l'issue d'un match houleux pendant lequel l'équipe technique de Berkane s'est constamment plainte des décisions arbitrales, M. Al-Salmi a décidé d'exclure deux joueurs du club égyptien. Dans la foulée, un membre du staff d'Al Masry lui a donné un coup de poing au visage et des coups de pied avant que la sécurité n'intervienne. En cyclisme, l'équipe belge Lotto, qui cherche à se maintenir en première division mondiale, a annoncé ce lundi la venue de deux coureurs d'expérience à partir du 1er mai, le Sud-Africain Renat Jans van Rensburg et l'Espagnol Carlos Barbero. Les deux anciens de l'équipe Kubeka étaient sans contrat depuis le 1er janvier. Après la saison, j'ai suivi une préparation normale, même si je n'avais pas encore d'équipe, a déclaré Jans van Rensburg, 33 ans, sacré champion d'Afrique du Sud en février. À 18 ans seulement, l'Espagnol Carlos Alcaraz a fait ce lundi son entrée dans le top 10 du classement ATP du tennis mondial au 9e rang. Il devient le plus jeune à intégrer ce cercle très fermé depuis l'icône Rafael Nadal en 2005. Carlos Alcaraz a poursuivi hier son début d'année tonitruant en remportant le tournoi ATP 500 de Barcelone après avoir déjà gagné le Masters 1000 au début du mois et le tournoi de Rio en février. Ce succès lui permet de grimper de deux places au classement ATP. Par contre, le Britannique Cameron Norrie est sorti du top 10 et regressé à la 11e place. Finaliste à Belgrade, où il a été battu par le Russe Andrei Rublev, toujours numéro 8 mondial, Novak Djokovic trône encore à la première place du classement ATP devant un autre Russe, Daniil Medvedev.
C'était les sports de Nanit Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza avec vous, place au dossier du jour. L'ultimatum de la CDAO à la junte burkinabé expire ce lundi. La junte au pouvoir à Ouagadougou avait jusqu'à ce 25 avril pour fournir à la CDAO un calendrier plus réduit pour le retour à l'ordre constitutionnel. Les militaires qui ont renversé le 24 janvier le président Roch Marc Christian Kabore avaient proposé une transition de 3 ans. Alors que l'armée peine à contenir les attaques djihadistes, la junte a entamé à travers des représentants locaux des négociations avec les mouvements terroristes. Pour une analyse, Bagasikoura a joint Bukari Woba, journaliste au journal d'investigation Le Reporter à Ouagadougou.
La situation sécuritaire au Burkina est toujours aussi préoccupante. Parfois, on se demande si ce n'est pas encore plus sérieux que ça ne l'était déjà sous Roch Marc Christian Kabore. On a pu constater que depuis l'investiture donc du lieutenant-colonel Paul Ali Sandaogo, autour du 15 février, on a enregistré beaucoup d'attaques, certainement plus des attaques de l'ampleur de la dernière qui était Inata. Mais quand même beaucoup d'attaques où on a enregistré très souvent des dizaines de morts, et aussi avec de nouveaux modes opératoires, hein, avec l'attaque notamment de convois civils. Et tout ça, c'est des indices qui montrent que la situation sécuritaire, elle est toujours assez préoccupante, malgré donc l'arrivée des dizaines de civils.
Alors, ces dernières attaques ont eu lieu dans le Soumain, là où on parle de début de négociations avec les groupes djihadistes. Comment vous interprétez cela?
C'est peut-être déjà un signal fort de la part donc, de ces groupes armés-là pour nous dire qu'ils ne sont pas forcément dans une disposition de négociations ou de dialogue pour reprendre le terme donc, du gouvernement burkinabé. Mais cela dit, vous savez qu'au Burkina, on est nombreux déjà à être sceptiques par rapport à ce dialogue-là. Après avoir fait la guerre, ou en tout cas faire semblant de faire la guerre, parce que juste là, on est beaucoup plus dans un dispositif défensif qu'offensif. Donc, ce n'est pas tout à fait une guerre comme on l'aurait souhaité. Donc, après avoir passé 5-6 ans dans cette situation-là, aujourd'hui, qu'on décide d'aller à un dialogue, à une négociation. On se demande bien ce que cela peut nous apporter, alors que nous avons montré toute notre faiblesse, notre incapacité justement à combattre ces groupes armés-là. On se demande qu'est-ce qu'ils gagnent finalement à négocier avec nous. Si même sans la négociation, ils sont à même, ils sont capables d'obtenir ce qu'ils veulent. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'en tout cas, progressivement, ils ont gagné des villages, ils ont gagné des communes, ils ont gagné des provinces.
La CDAO avait donné aux autorités militaires burkinabé de lui proposer un nouveau calendrier. Et l'ultimatum, c'est sur lundi 25 avril. Est-ce qu'on connaît la réponse du Burkina?
On ne connaît pas la dernière réponse du Burkina, mais il y a déjà quelques semaines, sinon même que régulièrement, depuis un certain moment, le gouvernement fait des sorties et chaque fois tente de répondre à cette demande-là de la CDAO, à savoir que notre calendrier ne peut pas être dicté par une organisation régionale soit-elle, et que la situation sécuritaire, la réalité du terrain, donc, qui va nous guider donc, dans l'élaboration d'un éventuel calendrier.
Bukari Woba, journaliste au journal d'investigation Le Reporter, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, l'affaire Asto Sorna, du nom de la jeune dame enceinte qui a perdu la vie à la maternité de Louga, continue de faire des vagues. Après la grève générale des personnels de santé jeudi, des Sénégalais sont descendus dans la rue ce samedi sous le thème « Patients en danger » pour alerter sur les conditions d'accueil et de traitement des patients dans les établissements de santé publique. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Samedi 23 avril, place de la Nation, Dakar. L'appel du collectif « patient en danger n'a pas trouvé un grand écho du côté des populations, avec une mobilisation relativement faible, mais une détermination sans faille des participants. Aminata Diallo réclame plus de considération pour les femmes.
Allez voir dans les services d'accueil ou d'urgence des hôpitaux. Les patients sont fatigués, les femmes sont fatiguées. On néglige tous les patients. Si tu n'as pas d'argent, on ne te touche pas. Si tu n'as pas de prise en charge, tu es aussi négligé. Les gens meurent souvent de manière évitable dans les hôpitaux et c'est dommage. Cela doit veiller à ce que l'on ait un plateau médical décent avec du matériel de qualité pour que les interventions soient de qualité. Le personnel de santé ne doit pas aussi oublier qu'ils ont prêté serment pour assister les malades et qu'ils doivent le faire correctement. Il est inadmissible que des femmes meurent durant l'accouchement. Et ce, c'est n'est que le début du combat.
Certaines autorités ont également fait le déplacement à l'image de la députée Mariam Soda Ndiaye qui tient à préciser qu'il ne faut pas se tromper de combat.
On est venu dire aux gens qu'ils ne doivent pas être en guerre avec le personnel soignant. Parce que quoi qu'on puisse dire, ils font du bon travail et des résultats, mais n'ont pas assez de moyens. On a des services de maternité sans infrastructure et le seul responsable de cette situation, c'est l'État du Sénégal.
Dans la même veine, le syndicaliste et activiste d'Ambouch estime que l'État du Sénégal doit revoir le système de formation privée et les recrutements dans le secteur de la santé.
Ils font ce qu'ils veulent, forment des gens incompétents et recrutent des proches pour les placer dans les hôpitaux. À cause du système de recommandation, pendant ce temps, les Sénégalais meurent comme des mouches dans les hôpitaux. Pendant ce temps aussi, les nantis se soignent à l'étranger et cette situation ne peut plus durer.
Pour impulser des changements dans le secteur sanitaire, le chef de l'État Macky Sall a annoncé plusieurs mesures, mais pour les Sénégalais et les personnels de santé, il faut des investissements importants et des réformes en profondeur pour changer les choses. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le président français Emmanuel Macron a été réélu dimanche à l'issue d'un second tour marqué par une progression de l'extrême droite. Au Niger, où la France a des bases militaires à Niamey et dans la région d'Agadez, quelques citoyens nigériens réagissent sur sa réélection. Ils sont au micro de notre correspondant Abdelrazak Idrissa.
C'est un événement. Moi, je n'ai pas suivi ça avec beaucoup d'intérêt. Les seules élections qui ont d'intérêt pour moi, c'est les élections de mon pays, c'est-à-dire le Niger. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit attendre? Je pense qu'on ne doit rien attendre. Et on n'attend rien même de Macron. Il faut que les gens comprennent qu'aucun pays ne peut aider un autre pays à se développer. Et même si c'est le cas, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas fortuit. Donc, l'Europe ne peut pas où la France ne peut pas développer ou avoir un plus-value dans le développement de nos pays, particulièrement le Niger. La preuve, la France est au Niger pendant plusieurs années. Qu'est-ce que la France a fait au Niger? Donc, je pense que ce qu'on doit faire, c'est de revenir sur terre et d'œuvrer et travailler pour nos nations.
Je considère que c'est parce qu'il n'y avait pas de candidat en face que Macron a été réélu, sinon il ne devrait pas revenir. Au-delà de ça, pour nous, par rapport à nous autres, à nos pays, nous n'attendons rien de Macron parce que c'est toujours le néocolonialisme qui va continuer. Les gens vont continuer à faire cette guerre économique qui s'est au Sahel. Ils vont continuer effectivement à vouloir s'imposer. Et aujourd'hui, vous avez constaté, c'était l'idée de Macron que le redéploiement des Barkhane sur notre territoire. Et c'est en train d'être effectif. Donc, nous n'attendons rien de Macron. Nous savons que déjà, la vision qu'il a pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, c'est qu'il pense de nous. Donc, on n'a pas grand-chose à attendre de Macron. C'est au peuple africain de se libérer. C'est à nos élites de se battre pour que nos pays soient indépendants vis-à-vis de la France.
On appréhende un peu cette réélection. Parce que le premier mandat de Macron n'ont pas vraiment été bénéfiques pour l'Afrique, en particulier pour le Niger ou même pour le Sahel, pour la région sahélienne. Parce que les attaques ont continué, on a vu, les Sahéliens ne voient pas trop l'impact que la Barkhane a créé. Mes attentes sont que nos présidents doivent s'imposer désormais, parce qu'on ne peut pas continuer ce qui s'est passé dans le premier mandat. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que bon, Macron doit faire. Non, ce n'est pas à Macron de faire quelque chose pour l'Afrique francophone, c'est au président de l'Afrique francophone de s'imposer. Parce qu'il faut que ça s'arrête, cette attitude où chaque fois c'est un président français qui appelle pour donner des ordres, mais il dit que non, il a appelé pour dire de faire. Et après, on se rend compte que c'est ce qui s'est passé. Donc mes attentes, c'est surtout sur le plan sécuritaire et sur le plan économique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le président américain Joe Biden a annoncé son intention de nommer une nouvelle représentante des États-Unis en Ukraine. La veille, lors d'une visite à Kiev, le secrétaire d'État Anthony Blinken a annoncé un retour progressif des diplomates américains en Ukraine. Le point avec Nani Tetalani.
Joe Biden compte nommer Bridget Brink, actuelle ambassadrice en Slovaquie, qui a passé ses 25 ans au sein du corps diplomatique, concentré sur l'avancement des politiques américaines en Europe et en Eurasie, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Le président américain confirme les déclarations du chef de la diplomatie, Anthony Blinken, qui a rencontré dimanche à Kiev le président Volodymyr Zelensky, en compagnie du secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin.
Une partie de notre engagement pour l'avenir implique un certain nombre de choses que j'ai pu partager avec le président Zelensky hier, y compris le retour des diplomates américains en Ukraine à partir de la semaine prochaine, y compris l'intention du président Biden de nommer un nouvel ambassadeur en Ukraine. L'actuelle ambassadrice Bridget Brink est une personne que je côtoie depuis longtemps, qui a une grande expérience de la région et qui sera une représentante très forte des États-Unis en Ukraine.
Au cours de leur séjour, les chefs de la diplomatie et de la défense des États-Unis, Anthony Blinken et Lloyd Austin, ont exprimé leur solidarité envers le dirigeant ukrainien. Anthony Blinken a aussi annoncé une aide militaire supplémentaire de 713 millions de dollars.
La conclusion est la suivante. Nous ne savons pas comment le reste de cette guerre va se dérouler. Mais nous savons qu'une Ukraine indépendante et souveraine existera bien plus longtemps que Vladimir Poutine. Et notre soutien à l'Ukraine continuera jusqu'à ce que nous voyions la victoire finale.
Le secrétaire d'État américain a par ailleurs assuré l'Ukraine qu'elle va gagner la guerre contre la Russie.
Et nous voyons qu'en ce qui concerne les objectifs de guerre de la Russie, ce pays échoue, l'Ukraine réussit. La Russie a cherché comme objectif principal de subjuguer totalement l'Ukraine, de lui enlever sa souveraineté, de lui enlever son indépendance. Ça a échoué. Elle a cherché à affirmer la puissance de son armée et de son économie. Et nous voyons bien sûr tout le contraire. Une armée qui est dramatiquement sous-performante et une économie en raison des sanctions, en raison de l'exode massif de la Russie et qui est en ruine.
La visite de messieurs Blinken et Austin était d'autant plus symbolique qu'elle a eu lieu le jour de la Pâque orthodoxe, célébrée dans la douleur et le recueillement dans le pays en guerre. Le président Zelensky a remercié lundi Washington, le peuple américain et le président Joe Biden personnellement pour leur soutien. Il a souligné que l'aide militaire américaine inédite d'un montant total de 3,4 milliards de dollars était la contribution la plus importante au renforcement des capacités de défense ukrainienne.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Lionel Lunanilagahima et Michel Claire-Joseph. Au micro, Eric Manilakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.
VOA Afrique, les infos. À